très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archives. Salut à tous et bienvenue dans cette première émission des archives de votre radio. Au cours de ce rendez-vous mensuel, vous allez pouvoir découvrir ou bien redécouvrir pour les plus anciens d'entre vous ce qui se faisait à la radio de manière bénévole ou par la rédaction entre les années 85 et 2004. Une période pendant laquelle le stockage a été réalisé sur des bandes magnétiques. Pour cette première émission, je vous propose d'écouter une émission réalisée par Gilles Margeran dans le cadre du projet Micro Ouvert, l'édition dont vous allez pouvoir profiter parle de Spéléo en Papouasie, avec comme invité Guillain Mestre. Et on se retrouve dans une demi-heure pour la suite. Bonne écoute!
Micro ouvert à Guillain Mestre, que je vais essayer de présenter. Sa famille, très lointaine, je dirais, est originaire de Thiergues. Et puis, lui, il est né à Montpellier. Il a eu la chance de faire une expédition assez extraordinaire et de voyager, d'aller en Nouvelle-Bretagne, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Guillain, bonjour, en tout cas. Donc.
Bonjour.
Brièvement, pour que les auditeurs fassent connaissance avec vous, vous avez une formation universitaire, dans quelle branche
Disons que j'ai une double formation en quelque sorte, c'est-à-dire une formation d'instituteur et puis une formation en géographie.
D'accord, ce qui vous a mené donc à voyager pas mal
Non, ça a été plutôt pour le plaisir.
Et la spéléo aussi, c'était pour le plaisir, dans la région
La spéléo, c'était pour le plaisir. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans et puis je n'ai jamais vraiment arrêté jusqu'à ce que je voyage vraiment dans des endroits où il y avait moins de grottes.
Et cette expédition que vous avez eu l'occasion de faire, qui a été filmée par FR3 en 95, je crois, c'était quelque chose d'assez exceptionnel quand même.
Disons que c'était, oui, au niveau des moyens qui ont été mis en œuvre, et puis grâce là quand même un petit peu de chance aussi, par les résultats, c'était l'exploration du premier gouffre dépassant 1000 mètres de profondeur dans l'hémisphère sud, parce qu'il y en a beaucoup qui sont connus en Europe ou ailleurs dans l'hémisphère nord, mais pour partir dans l'hémisphère sud, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais c'était donc un exploit, c'est une forme d'exploit quand même. C'était une grande première quelque part.
Si on veut, oui.
Comme au niveau montagne ou...
Voilà, etc. À la différence de la montagne, où l'Everest, l'altitude de l'Everest était connue bien avant qu'on y mette les pieds, on ne connaît toujours pas le plus profond gouffre du monde, puisqu'on ne peut pas voir...
Bien sûr, donc on ne peut que faire des plans...
Faire des suppositions par rapport à la géologie, au climat, etc.
Bien, mais alors, comment on arrive à faire, même pour le plaisir, comment on arrive à faire quand au départ on est enseignant, on part en voyage dans une expédition comme ça, comment ça se présente? C'est des rencontres, c'est des amis?
Il faut remonter dans le passé, en 1987, où j'avais participé à une première expédition donc en Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Là, j'avais vu tout simplement une annonce, un appel à candidature dans la revue de la Fédération française de spéléologie. J'avais posé ma candidature qui avait été retenue.
Ah donc c'est une petite annonce au départ.
Voilà, au départ c'est une petite annonce.
Comme quoi les petites annonces, c'est bien. On parlera de l'expé tout à l'heure, plutôt dans la deuxième partie de l'émission. On pourrait plutôt peut-être situer cette île de Nouvelle-Bretagne avec le village de Galoué, je crois, la situer par rapport géographiquement, quoi, par rapport
à... Donc là, politiquement, la Nouvelle-Bretagne fait partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est un État indépendant depuis 1980, après avoir été successivement une colonie partagée entre les Allemands et les Anglais, puis sous mandat australien, après la Première Guerre mondiale, donc jusqu'en 1980, où la Papouasie-Nouvelle-Guinée a accédé à l'indépendance. Et donc la partie orientale de la Nouvelle-Guinée puisque la partie occidentale est toujours sous domination indonésienne, avec d'ailleurs quelques problèmes un petit peu. Et puis les îles et archipels qui s'y rattachent, dont la Nouvelle-Bretagne, qui est quand même une île assez importante, puisqu'elle est par exemple deux fois plus grande en superficie que la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la principale île de Mélanésie, même si elle est très peu connue.
C'est assez peu connu, justement. Et pour aller là-bas, on passe par Nouméa d'abord. Quel est le circuit, disons, le plus traditionnel, ou par l'Australie avant de... On fait escale avant de...
Non, pour aller en Nouvelle-Guinée depuis l'Europe, le plus simple est de passer par Singapour.
Singapour, voilà. Mais on n'en dira pas plus, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de gens qui aillent là-bas. De toute façon, on va essayer de rêver avec vous sur ce village, particulièrement donc sur cette île et sur ce village. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de vos premières impressions? C'est toujours intéressant de savoir quel est le... Quand on arrive, là, les premiers trucs, qu'est-ce que c'est? Il fait très chaud. Resituer peut-être un petit peu le climat et les premières impressions en arrivant vers ce...
Mais les premières impressions remontent à loin, puisque ça date de 1988. Et en fait, c'était la nuit. On est arrivé dans une pirogue à moteur. Parce qu'on avait été invité à une petite fête qui précédait donc l'expédition. Et donc, déjà, il a fallu passer la barre de vagues avec la pirogue pour rentrer dans le fleuve qui débouche à cet endroit-là, et puis ensuite arriver au village.
Donc c'était sportif dès le départ un petit peu, ça bougeait la barre, c'est dangereux
aussi. Disons que comme la pirogue n'avait pas une grande contenance, ils ont fait deux voyages. Au deuxième voyage, ils ont quand même chaviré. Mais j'étais dans le premier.
Donc pour ceux qui ont pris le bain en arrivant, ça a dû quand même leur faire un petit peu bizarre, non?
C'est un bain à 30 degrés, donc ça va à peu près.
Oui, c'est soutenable. Et ce village, alors, est-ce qu'on peut le décrire un peu?
Alors c'est un village qui a des caractéristiques à la fois traditionnelles et modernes, dans la mesure où il a été constitué par des gens qui au départ vivaient dans la montagne et qui se sont retrouvés regroupés sur la côte sous l'influence des Australiens au moment de leur contrôle politique sur la Nouvelle-Guinée. Et donc pour pouvoir contrôler les populations, ils les ont en quelque sorte obligés à descendre sur la côte. Et ce qui se passe actuellement, donc, c'est que ces gens qui avaient l'habitude de vivre dans des hameaux en montagne se sont retrouvés regroupés, donc une population de 300 à 400 personnes à peu près, dans des conditions auxquelles ils n'étaient pas habitués. Et le mouvement auquel on assiste actuellement, c'est justement un essaimage de nouveau en petits hameaux le long de la côte, parce qu'ils ne veulent pas retourner en montagne, mais ils se redispersent, ils reconstituent les hameaux tels qu'ils les connaissaient dans l'ancien temps.
D'accord, donc ces gens de la montagne, ils ont un nom, il y a des noms de tribus
Alors, c'est un petit peu compliqué. Disons que leur territoire s'appelait Gop Gop. C'est des gens dont la langue a été identifiée comme le Mengen, qui est parlé par une population d'environ 2000 habitants. Il faut savoir qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a environ 700 langues différentes qui sont parlées. Et il y avait dans la montagne environ une trentaine de hameaux. Qui se déplaçaient d'ailleurs, puisqu'ils déplaçaient les hameaux selon la proximité des cultures. Ils pratiquaient une culture semi-itinérante, dans la mesure où ils ne recultivaient jamais la même parcelle de terre. Et donc, ils se déplaçaient progressivement.
En défrichant et...
Disons, quand les terres disponibles pour la culture se trouvaient plus loin que 2 heures de marche, à ce moment-là, ils déplaçaient le hameau.
Mais c'est assez étonnant comme phénomène, des gens qui étaient dans la montagne, qui avaient une culture de montagne, brusquement se retrouver près de la pêche, près de la mer, etc.
Oui. Alors, ben, c'est ce qui fait aussi que, en fait, bien qu'ils vivent maintenant depuis une trentaine, une quarantaine d'années sur la côte, ils restent de piètres pêcheurs. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur culture. Quelqu'un même qui passe trop de temps à la pêche ou à la chasse se retrouve relativement méprisé, oui, parce que ce qui fait les qualités, le prestige, c'est le savoir-faire pour la culture des jardins.
Oui, c'est assez paradoxal et intéressant. Donc, comment vous avez pu communiquer avec ce village, je crois que vous êtes même devenu assez ami avec le chef et tout ça. Donc, comment on communique par geste au départ? Comment ça se passe?
Alors non, on a quand même quelques interprètes parmi les jeunes qui sont scolarisés et qui parlent anglais, qui parlent anglais à peu près aussi mal que moi, donc on arrivait à se comprendre, et qui traduisaient donc ce que disaient les vieux. Les premières relations donc, ont été des relations en quelque sorte professionnelles, puisque nous avions embauché des habitants du village de Galloway comme guides et comme porteurs donc, en 88. Et tout au long de cette expédition, j'avais eu un sentiment assez étrange. Disons qu'on voyait que nous intriguions beaucoup ces gens-là, mais eux aussi nous intriguaient. Ils avaient des comportements qu'on avait du mal à comprendre et qui nous posaient beaucoup de questions, enfin, particulièrement.
Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des anecdotes ou exemples, qu'est-ce qui était surprenant dans leur comportement pour vous, je veux dire, ouais.
Ben, la place du spirituel et de la magie dans leur manière d'interpréter les choses. Je me souviens d'une fois où il y a eu une forte tempête de vent dans la montagne. Nous étions là, installés à 2 jours de marche du village, complètement isolés. Puis il y a eu une tempête de vent, et avec bon, des arbres qui tombaient, c'était quand même assez impressionnant. Et à un moment, le chef, donc John Kayopuna, est sorti sur la clairière pour faire des incantations pour arrêter le vent. Et le vent a continué. Il est ressorti, il a recommencé, le vent a continué. Il commençait à être un peu assez mal à l'aise. Et nous, on était un petit peu narquois. On disait, mais ça marche pas ta magie. Et puis, le troisième jour de la tempête, il nous a carrément abandonnés. Il est rentré au village. Et on n'a pas vraiment compris ce qui se passait, parce qu'il a continué à croire en sa magie qui ne marchait pas. Et en fait, l'explication pour lui, je l'ai comprise un peu plus tard, c'est que sa magie était parfaitement efficace, mais là, c'était les esprits de la forêt qui étaient dérangés par notre présence et qui avaient commandé le vent et qui avaient bien sûr une magie supérieure à la sienne.
Et on retombe sur ses pattes et voilà. On a une explication. Mais il n'y a pas eu des choses un peu troublantes dans le film qui a été fait sur votre expédition? Justement, il dit qu'une fois, si c'est le même homme, je crois, oui, qui s'est perdu et que sans les esprits, il serait mort. C'est en pensant très fort, en rentrant en contact avec les esprits, qu'il a retrouvé son chemin.
Oui, alors, mais disons que ça fait partie aussi de son rôle de chef, d'être toujours crédible, en bonne relation avec les esprits, d'être un bon magicien. Et donc, effectivement, nous avions démarré sur un itinéraire qu'ils ne connaissaient pas, parce que leurs repères géographiques sont assez particuliers, donc... pour retrouver le chemin connu, ça lui a posé des problèmes. Il s'est perdu, parce qu'il était parti en reconnaissance. Et là, bon, son explication pour revenir sur le bon chemin, c'est qu'à un moment, il s'est arrêté, il a discuté avec les esprits, qui lui ont dit « c'est par là ».
Vous n'avez jamais eu de rencontres un peu troublantes où justement la magie fonctionnait, ou des choses qui un peu, pour nous qui sommes relativement cartésiens, en tout cas pour la plupart, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont troublé, des choses un peu inexplicables ou,
En ce qui me concerne personnellement, non.
Non, puis vous étiez avec une équipe scientifique assez cadrée qui, a priori, donne assez peu de...
Oui.
de crédibilité à ce genre de croyances, quoi.
Mais disons que ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'en fait, il n'est jamais possible de leur démontrer l'aspect rationnel des choses. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a toujours une explication magique, en fait, leur système d'explication du monde est tout aussi performant que le nôtre. Mais bon, ça... Ça n'a pas changé mon opinion.
Bien sûr. Non, mais il est probable que si on arrivait à leur enlever cette croyance, tout s'écroule aussi, peut-être. Si toute leur...
Je ne crois pas que quiconque soit capable de leur enlever cette croyance.
Voilà. Vaut mieux pas, peut-être. De toute façon, on pourrait peut-être parler de la jungle, que j'ai vu, qui est superbe.
Oui.
De la flore, de la faune, d'expliquer un petit peu cette jungle qui est vraiment à la machette. Il y a du boulot, quoi, hein, pour faire le chemin, non? Ça m'a semblé très luxuriant.
Faut relativiser les choses, d'accord. C'est-à-dire que effectivement c'est très luxuriant, mais en général c'est des bois tendres, donc à la machette ça passe bien. Ça passe bien, et c'est une jungle qui est aussi relativement accueillante, relativement sympathique, à condition de prendre les précautions minimum, c'est-à-dire de soigner la moindre plaie sur l'instant, bien avant qu'elle s'infecte. Mais sinon, il n'y a pas de bêtes féroces. Il y a le pire qu'on puisse attraper, c'est le paludisme si on ne s'est pas protégé. Mais à part ça, c'est une jungle accueillante.
Accueillante, et au niveau du climat, c'est très humide, c'est très chaud.
C'est probablement un des lieux les plus humides de la planète. C'est au niveau des précipitations. Bon, il n'y a pas de mesure existante, mais enfin, les mesures les plus proches déjà indiquent des pluviométries de plus de 6 mètres d'eau par an. Mmh. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et dans la montagne, dans la forêt, il est manifeste qu'il pleut encore bien plus.
Voilà, et c'est toute l'année ou il y a une période sèche?
Disons qu'il y a une période très humide et puis une période humide.
Donc c'est très humide toute l'année. Un petit mot de peut-être de conclusion sur ce village. Quelle impression vous en retirez? Quel souvenir? Qu'est-ce qui vous reste de ce village quand on vous parle de Galway? Qu'est-ce qui vient
Une envie d'y retourner.
Oui. Et les gens, il y a eu des rencontres particulières ou?
Ben, disons que maintenant, John Kayopuna, le chef, c'est pour moi un ami. Il y a d'autres gens aussi du village qui sont des amis pour moi. Et puis surtout, même par rapport à la Nouvelle-Guinée, ces gens de Galway sont vraiment privilégiés par l'emplacement de leur village, même si au départ ils ne l'ont pas choisi. Ils sont à l'embouchure d'une rivière qui vient de la montagne, qui amène de la fraîcheur, de l'eau douce. Ils ont une plage qui est magnifique. Ils ont vraiment un cadre qui est splendide. Et puis une douceur de vivre extraordinaire.
La suite de Micro Ouvert avec Guillain Mestre qui a participé à plusieurs expéditions, mais une récente, je crois en 95, qui a été filmée par FR3, enfin qui a été diffusée par FR3, filmée par une équipe de 4 personnes. Et l'émission s'appelait Les 4 dromadaires, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et donc Guillain, quelle était votre place là, dans cette équipe?
Ben, disons que ma place a été un peu celle de quelqu'un qui arrive au dernier moment, puisque au mois de novembre 94, je reçois un coup de fil de Luc Henry Fage, qui était le réalisateur du film sur l'expédition, avec qui j'étais resté en contact et qui me demande des renseignements récents que j'avais sur Galway, sur le village de Galway en Nouvelle-Bretagne, donc. Et qui voulait que je lui communique le mémoire que j'avais réalisé lors de mes études, parce que il partait en expédition donc de spéléologie à Galway. Et puis dans la discussion, il me dit mais au fait, ça se passe en janvier-février 95. Tu serais pas en vacances toi à ce moment-là? Ça tombait pendant les vacances scolaires. J'ai dit ben très bien, je suis partant. Et voilà donc comment je me suis retrouvé là-dedans. J'habitais à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie, donc pour moi, c'était plus près. Et me voilà parti. Donc le 20 décembre, j'ai rejoint la partie de l'équipe qui était déjà arrivée donc à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis l'expédition s'est enchaînée donc à partir de là.
Voilà. Alors combien de personnes à peu près y a dans une quinzaine
de personnes, oui. Une quinzaine de personnes. Donc, en fait, moi, j'ai eu de la chance dans la mesure où je me suis greffé sur l'expédition au dernier moment, alors que le reste de l'équipe l'a préparé depuis un an et demi.
Une équipe comme ça, on distribue les rôles. Il y a un scientifique qui va chercher des choses très précises, il y a un toubib, il y a des infirmières, il y a etc. Comment ça marche ?
Ça se passe aussi un peu en fonction des disponibilités des gens, parce qu'il faut dire que pour participer à une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il faut d'une part avoir du temps de disponible. Là, il fallait compter 2 mois minimum. Et d'autre part, de l'argent, parce que la participation personnelle aux frais d'une expédition est quand même importante. Cette expédition donc, a été organisée par Jean-Paul Sounier, qui avait participé déjà aux précédentes expéditions, et qui, au vu des résultats déjà obtenus, avait considéré qu'il était possible de prolonger l'un des gouffres qui avait déjà été exploré en 1985, jusqu'à une profondeur d'au moins 1000 mètres. Voilà donc quel était l'objectif.
D'accord. Et donc, pour faire connaissance avec une équipe comme ça, enfin, je crois que ça doit être assez important de bien s'entendre, d'avoir des affinités, parce que c'est un petit peu comme s'embarquer sur un bateau, ou peut-être même pire, quand on est dans un gouffre avec une équipe, vaut mieux que ça marche quoi, ensemble, il faut être un peu complémentaire, tout ça. Est-ce qu'il y avait une préparation psychologique, je dirais, à ce niveau-là ?
Ben, pas pour moi, puisque j'ai fait connaissance de l'équipe au moment où je l'ai rejointe. Sinon, effectivement, je crois qu'eux avaient fait des sorties spéléo en France ensemble pour apprendre à se connaître un petit peu. Avaient eu de nombreuses réunions, parce qu'organiser une expédition comme ça, c'est quand même un sacré boulot.
Alors, est-ce qu'on pourrait savoir les buts réels ? Alors, il y a un côté scientifique, mais qui est un peu un prétexte, ou est-ce que c'est vraiment pour le plaisir de réussir comme un sommet en montagne, ou etc. Quels sont les...
Je crois que les buts sont en fonction de chacun. Alors, un des buts du spéléologue explorateur, c'est de faire de la première, c'est-à-dire d'explorer des grottes, des gouffres qui n'ont jamais été explorés, ou de prolonger des gouffres qui ont déjà été explorés, mais de les prolonger au-delà, donc d'être le premier en fait à mettre les pieds quelque part. Voilà. Maintenant, pour une expédition en Nouvelle-Guinée, il y a tout le contexte aussi, le fait d'aller dans la jungle, de faire connaissance avec les papous, se baigner dans une mer tropicale, etc.
Il y a avant l'expédition, après, pendant, enfin, voilà. Il y a plusieurs étapes, sûrement. On peut avoir une idée du prix d'une expédition comme ça, parce que c'est assez énorme. On voit dans le document d'FR3, en tout cas, on voit il y a des hélicos, il y a du matériel, quoi. Hein,
Alors le budget...
À peu près, hein, c'est pas...
Voilà, le budget de l'expédition de 95, il faut dire aussi que c'était une expédition particulièrement coûteuse dans la mesure où c'était une expédition de spéléo-plongée, c'est-à-dire qu'il y avait un passage de siphon, donc avec tout l'équipement de plongée en double, en compresseur, etc., et tout ça qu'il fallait transporter jusqu'au camp en pleine jungle, donc une infrastructure lourde, ce qui fait que c'était une expédition chère, qui heureusement était en partie prise en charge donc par différents sponsors. Le budget de l'expédition lui-même, je crois que c'était autour de 800 000 francs français. Et le film tourné par rapport à cette expédition avait un budget sensiblement équivalent.
Le côté scientifique, c'était quoi ? C'était prendre des roches, ramener des insectes, faire des prélèvements d'eau. C'était des choses comme ça ? C'était, quels étaient les buts vraiment réels scientifiques ?
C'est un petit peu difficile à exprimer. C'est un but de géomorphologie, c'est-à-dire... un but de connaissance du fonctionnement des karsts, c'est-à-dire des massifs calcaires et de la circulation des eaux souterraines en milieu tropical montagneux.
Bon, oui, c'est ça paraît peut-être un peu bizarre pour les néophytes, hein, bien sûr. Et alors, on va parler du plaisir, puisque pour la plupart, ça a été le plaisir. Est-ce qu'on peut exprimer, toujours sur ce document que j'ai visionné On voit les gens sortir complètement épuisés, crevés et tout, et qui disent ouais, « c'est fabuleux, c'est fantastique », ils sont complètement en extase, quoi. Alors, votre impression personnelle, votre expérience à vous ?
Mais disons que pour moi, en fait, déjà l'objectif pour cette expédition, c'était plus la partie Nouvelle-Guinée que la partie spéléologie. C'est-à-dire je retournais voir les gens que j'aime beaucoup à Galloway, je retournais dans la jungle. Il y avait un objectif qui, pour moi, était m'apparaissait plus intéressant aussi comme objectif spéléologique, c'était de rejoindre la résurgence par où sortent les eaux du gouffre qui étaient explorées, parce que cette résurgence avait été aperçue d'hélico. Elle se trouve au milieu d'une falaise, c'est une cascade qui sort d'un porche énorme, et donc d'arriver à atteindre ce porche et puis d'explorer jusqu'où on pouvait aller, c'était pour moi un objectif fabuleux.
Oui, il faut dire que c'est superbe. Hein. Les images sont vraiment assez extraordinaires de voir cette cascade énorme au milieu de la jungle, effectivement. Et avec c'est très escarpé, finalement. Enfin, il y a des falaises, il y a des choses comme ça.
Je dois dire que là, nous avons eu une chance extraordinaire, c'est d'arriver au porche de la résurgence par le seul endroit où c'était véritablement accessible, sans passer des semaines à faire de l'escalade artificielle. Parce qu'il y avait des surplombs, parce que la roche est pourrie. Parce qu'il y a des grandes verticales. Donc là, nous avons eu beaucoup de chance.
Et donc, sous terre, est-ce que vous avez vu des choses que vous n'aviez jamais vues avant? Est-ce qu'il y a eu des découvertes?
Alors, la particularité des grottes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en tout cas de Nouvelle-Bretagne, c'est d'être des cavités actives avec toujours des circulations d'eau, ce qui fait des grottes propres. On n'a pas besoin de ramper dans la boue. C'est aussi des grottes qui sont grandes. C'est les étroitures, c'est les endroits où il faut se baisser. Et puis donc là, la chose vraiment extraordinaire, c'était le débit de l'eau. C'est-à-dire 2 mètres cubes par seconde, c'est quelque chose d'énorme. Bon, ça présentait aussi des difficultés, mais au niveau du plaisir de passer à côté de cascades avec un tel débit, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, impressionnant.
Et alors, est-ce qu'il y a une faune sous terre? Est-ce qu'on trouve quelques insectes ou...
Disons que la faune est peu spectaculaire. C'est souvent des petits insectes qui ressemblent à rien, qui n'ont pas d'yeux ou qui sont tout blancs, décolorés, etc. Il faut dire que c'est une faune qui est relativement rare parce que les ressources sous terre sont réduites. Alors en Nouvelle-Guinée, quand même, les eaux charrient en général beaucoup de particules organiques, ne serait-ce que les feuilles qu'elles ont collectées en surface. Ce qui donne un bol alimentaire aux animaux qui vivent sous terre. Mais par contre, les crues sont fréquentes et donc ont tendance aussi à chasser les petites bestioles. Donc quand même, on n'en voit pas beaucoup. Ce n'est pas la partie la plus spectaculaire de la spéléologie là-bas.
Ça aurait pu être très dangereux, puisque si c'était mis à pleuvoir un petit peu trop brusquement, vous auriez pu être bloqué ou des choses comme ça.
Le danger est beaucoup lié à la configuration de la cavité. Et là, il faut dire que c'était des cavités qui avaient des profils de canyon, c'est-à-dire des galeries très hautes et relativement peu larges. Tout dépend des standards, ça faisait quand même entre 3 et 10 mètres de large, mais souvent 20 ou 30 mètres de haut. Et donc, on avait tendance à équiper des passages en hauteur de façon à se retrouver à l'abri des crues au cas où il y en aurait.
D'accord.
Il y en a eu d'ailleurs.
Il y en a eu. Alors, vous avez eu peur, probablement, peut-être, non?
Pas vraiment, dans la mesure où tout était prévu pour... Bon, ce n'était pas des crues énormes, et d'autre part, tout était prévu pour que ça se passe en sécurité.
Il y a eu des accidents, vous avez été obligé de remonter des gens parce qu'il y a eu des problèmes, ou tout s'est bien passé?
Pas sous terre, non. Il y a eu parfois des moments un petit peu critiques, là, dans la résurgence, à cause du débit, où parfois, on était dans l'eau jusqu'au cou, et puis on s'agrippait un peu aux parois, et parfois, il y en a qui ont lâché des prises, qui se sont fait entraîner dans le courant, il fallait les rattraper avant la cascade qui était un peu plus en aval, mais tout s'est bien passé.
Donc, l'expédition a réussi, vous avez fait cette grande première, 1000 mètres sous terre. Quand on sort, qu'est-ce qui se passe?
Alors,
il y a un instant d'émotion, probablement, de réadaptation.
Disons que je n'ai pas participé à l'exploration qui a mené au moins 1000. Moi, à ce moment-là, j'étais dans la résurgence. Mais bon, ça, c'est le résultat de toute une équipe. C'est un peu comme en montagne. Ce n'est pas tout le monde qui arrive au sommet. Mais la réussite, c'est quand le sommet est atteint. Là, le fond n'a pas été atteint. Les moins 1000 ont été atteints, mais faute de temps et faute de matériel, la dernière équipe de pointe donc, s'est arrêtée au sommet d'un puits qui reste à descendre. Et surtout, la jonction maintenant entre le gouffre et la résurgence nous paraît très probable, mais n'a pas encore été réalisée.
Donc il y a une autre expédition. Vous gardez quelque chose là pour...
Donc je crois bien qu'il y a une expédition qui est en préparation pour 97 ou 98 pour essayer de faire la jonction.
Sinon, une expédition comme ça, je suppose, ça crée des liens énormes entre les gens. Entre vous, ça s'est bien passé. Comment ça se passe? Ou alors, l'expédition est finie, on se quitte, salut, à la prochaine. Comment ça se passe, ça?
Mais disons que pour moi, ça a été un petit peu difficile, dans la mesure où, une fois l'expédition finie, les autres rentraient en France et moi, je rentrais en Nouvelle-Calédonie. Donc, 18 000 km d'écart, ça fait beaucoup. Ceci dit, l'expédition, c'est déroulé un peu, pas vraiment en équipe soudée, dans la mesure où, enfin, ce qui me concerne personnellement, j'étais le plus souvent donc, sur la résurgence, dans un camp secondaire qui avait été installé, un petit peu sommaire, qui était quand même à une journée de marche du camp principal. Ce qui fait qu'en fait, il y a des membres de l'expédition que j'ai fréquenté peut-être une semaine à tout casser au cours des 2 mois de l'expédition.
Voilà, c'est peut-être un peu pour démystifier ce qu'on peut imaginer. On pourrait en tout cas conclure cette partie sur un peu ce qui a été la conclusion d'ailleurs du film des 4 dromadaires, non, qui a été fait sur votre expédition. Il parle de ce pays qui est en train de changer, et là on revient plus sur les Papous peut-être et sur le village. La conclusion est assez pessimiste quand même. Ils ont l'air de dire que petit à petit,
Bien, il faut dire que la dernière fois que j'étais allé donc à Galloway, en Nouvelle-Bretagne, c'était en 1993. C'était encore un coin relativement intact. Et en 1995, quand nous sommes arrivés, il y avait des compagnies forestières malaisiennes en train d'opérer.
Voilà. Et donc ils coupent tous les bois précieux.
Voilà. Alors. Quand nous étions là-bas, l'exploitation était stoppée pour des problèmes d'entente entre les villageois et la compagnie, mais c'était en voie de redémarrer. Alors les objectifs des uns et des autres sont assez complexes à interpréter.
Le territoire n'appartient à personne, les compagnies arrivent là-dedans, elles ont une concession,
non.
Elles coupent ce qu'elles
veulent.
Les
propriétaires fonciers donc, sont les chefs coutumiers, ce sont eux qui ont la maîtrise du sol, et ce sont eux qui sont allés chercher les compagnies forestières. Il faut parfois démystifier un petit peu, parce qu'ils attendaient des royalties de l'exploitation de la forêt, et donc ce sont eux qui ont envoyé quelqu'un en mission à la capitale pour prendre des contacts, pour faire venir les compagnies.
Donc maintenant, c'est l'exploitation, et c'est un peu eux qui ont démarré ça, mais est-ce qu'ils se font escroquer, justement?
Oui, ils se font escroquer, de toute façon, par le prix qui est payé, par par rapport à la destruction. Surtout que là, il s'agit de forêts en montagne, avec des pentes énormes, donc avec des problèmes d'érosion énormes aussi. Et à terme, un problème pour la culture des jardins.
D'accord.
Pour la fertilité
donc
des
vous
sols.
Êtes assez pessimiste pour les années à venir.
Les Papous, d'une manière générale, sont quand même relativement durs en affaires, et je pense qu'ils ne vont pas non plus complètement se laisser avoir à ce niveau-là. Là, l'objectif du chef, tel qu'il me l'a donné au cours d'une discussion, c'était de se faire construire une route jusqu'aux anciens villages, quitte à mettre la compagnie forestière dehors après.
C'était Micro Ouvert sur Radio Sainte-Afrique avec Guillain Mestre.
Retour vers vers le futur, vous êtes bien en 2013 en train d'écouter Radio Saint-Af. Et je vous propose, pour poursuivre, de partager un document réalisé par Cafou dans Radio Vous Autres, et ce, bénévolement. Cette émission parle des bouilleurs de crue de l'Aveyron, une archive Radio Saint-Afrique de 90, le 23 décembre pour être précis.
Dehors, abrité juste par une toile de tente pour se mettre à l'abri des bourrasques et des intempéries de ces jours derniers, un artisan fait vivre une des plus vieilles machines du monde. Rudimentaire mais efficace, l'alambic tourne inlassablement pour le plus grand plaisir des paysans viticoles de notre région. Allez, hop, un petit plongeon.
Et puis c'est la vapeur d'eau qui passe dedans, qui chauffe la matière pour les dedans, du raisin, des fruits, et autres. Et puis ça fait dégager de la vapeur d'alcool. C'est toujours de la vapeur, hein, la vapeur d'alcool. Et après cette vapeur passe dans une colonne rectificatrice, là, qui arrête les déchets. Et puis de là, ça se transforme en alcool. Et il y a des serpentins. On passe à des serpentins qui sont refroidis par de l'eau. Par de l'eau toute froide, pardon. Et c'est là que se transforme l'alcool.
La vapeur d'alcool vient de.
De l'alcool.
De l'alcool à combien
degrés? Le premier, il sort à 70 degrés, 80. Et puis on le laisse couler jusqu'à ce que c'est 4 degrés. Faire le fait comme on veut. C'est le système de la lactique.
Ça fait longtemps que vous faites ce métier?
Moi, depuis les années 59. En 1959, j'ai commencé.
Et c'est un métier qui se fait, vous êtes tantôt ici, tantôt dans d'autres endroits, vous bougez beaucoup?
Alors là, je fais que de poste. Ici et chez moi, à la Clapareda. J'en viens de loin.
Ça s'appelle bouilleur de cru.
Bouilleur ambulant.
Bouilleur
ambulant. On dit bouilleur de cru, mais c'est bouilleur ambulant. Le bouilleur de cru, c'est celui qui porte les matières à distiller.
Il y a beaucoup de personnes qui portent leur.
Mais il faut avoir le droit de distiller.
Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont ce droit.
Encore il y en a, mais ça se perd. Hein. Il faut avoir le privilège. Hein.
C'est un droit qui n'est pas retransmis.
Non. C'est pas du tout retransmis. Et puis, alors, je récupère le sol.
Là, dans un bac là-bas, et j'ai une pompe qui m'alimente automatiquement la chaudière. Je récupère des calories et je la vois dans la chaudière automatique.
Il faut combien de temps pour arriver au produit final?
Je ne savais pas comment ils changent les vases, il faut compter 3 quarts d'heure, 1 heure.
Vous faites à peu près combien de litres d'alcool par jour en ce moment?
Je fais une quinzaine de clients à 20 litres. 15 litres, je sais pas. 250, 300
litres. Chaque personne qui a un droit à
20 litres.
À 20 litres,
oui.
Pas plus.
Pas plus.
Et dans la mesure où il y en a plus.
Ah, ben là. Ils ont droit qu'à 20 litres. D'ailleurs, ils portent la marchandise pour 20 litres.
Ça veut dire que dans peu de temps, vous êtes amené à disparaître.
À disparaître, oui.
Dans c'est combien petit. De temps vous pensez qu'il n'y aura plus de droit
De 5 à 10 ans.
5 à 10 ans.
Ouais. Et pourquoi les droits ne sont pas renouvelés?
Je ne sais pas. Il faut demander ça à M. François Mitterrand.
J'ai le hockey, Dieu me l'a fait. J'ai le hockey, j'ai le hockey, j'ai le hockey, et je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué. Je rock et je rocket, je rock et je rocket.
Ouais.
Les gens, ils continueront
ils
à...
Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, c'est strictement défendu. Hein. Les alambis qui sont démolis à mesure, hein. C'est la propriété de l'État. Hein. On est les patrons, mais c'est la propriété de l'État. Hein. Si vous arrêtez, ils font ce qu'ils veulent. Hein.
Est-ce que ces machines demandent beaucoup d'entretien?
Alors, il y a de l'usure, oui, mais après, l'entretien, ça dure quand même quelques années. Hein.
Ça fait longtemps que vous
avez fait. Ah, mais ça, c'est... Ça a été refait il y a 15 ans. C'est le panthère aussi.
Elle date de quelle année, cette machine?
1904 parce qu'elle porte le numéro de, qui est poinçonné, c'est 1904. C'est l'année de sortie.
Vous n'avez pas de problème dans la mesure où il y a une pièce qui est cassée?
Ah non, mais je l'ai porté. Il faut, quand on démarre, ça marche. Hein. Donc, lui, c'est passé au service des mines. Hein. On est contrôlé tous les 5 ans, là. Ça, il faut que ça tienne le coup. Après, il y a la responsabilité du personnel.
Dans la région, vous êtes combien à faire ce métier?
Ah, mais pour le moment, ici, sur le Centre-Africain, on est que 3. On était 5. Il y a un qui a arrêté, l'autre qui a été suspendu pendant 3 ans. Et on reste 3.
Vous gagnez bien votre vie à faire ça?
Oh, mais ça c'est un passe-temps.
Vous faites ça en plus?
C'est en plus ça. Hein. Non, on ne voulait pas vivre avec ça. Ça lui a passé le temps.
Quoi. C'est une passion?
Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. N'importe qui, celui qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas goûté à ça, ne peut pas le faire. Hein. Il faut que ça vienne de père en fils.
Moi, c'est votre père qui vous l'a...
Ah non, moi c'était le beau-père, le père de ma femme. Il a été malade, il est mort et j'ai pris la succession comme ça. Je me suis débrouillé tout seul. Mais j'en ai souffert, hein. Au début, hein. Je ne faisais pas ce que je voulais. Surtout qu'au début, il y avait de la concurrence, hein. On était plusieurs. Hein. Mais maintenant, depuis 33 ans, maintenant, c'est 59. De trentaine d'années. On a beaucoup l'habitude.
Hein. À la fin de la journée, vous n'avez pas les vapeurs qui vous montent à la tête?
Eh non, c'est une affaire d'habitude. Hein. C'est une affaire d'habitude, autrement si, ça ferait du mal. Hein. Il ne faut pas boire, hein. Moi je ne bois pas d'alcool.
Jamais?
Non. Je ne bois pas de vin, je ne bois que de l'eau.
Vous ne la goûtez pas, celle que
non,
vous
non,
distillez?
Non, non. Non, parce que j'allais assez avec les vapeurs. Hein. C'est celui qui s'amuse à boire en faisant ça, mais le soir, il est rond. Hein. D'ailleurs, on ne se ferait pas mieux. Hein. Si on boit et respire ça, là, hein, comme autrefois qu'on faisait des campagnes de 3 mois ou 4, hein. Et bien, ça serait vite cuit. Hein. C'est que quand même, c'est l'alcool qu'on respire. Hein.
J'ai le hockey, j'ai le hockey, j'ai le hockey, et je ne peux plus m'arrêter. Je suis suffoqué. Je rock et je rocket, je rock et je rocket.
Et là maintenant, ça dure combien de temps?
Là maintenant, un mois et demi. Fin novembre.
Vous restez un mois et demi ici avant?
Ah non, non, là je m'en vais là.
Alors, la semaine?
Là, oui, il faut compter 2 semaines là. Mais je restais un mois avant là. Puis avant, il y en avait des alambis, il y en avait deux à Sainte-Afrique, il y en avait deux ici, et moi j'étais à Bourgogne, il y en avait partout. Hein. Là maintenant, ça s'est éclairci. Hein. D'ailleurs, ça s'est éclairci là de plus en plus. Hein.
Elle est plus si bonne qu'avant? Elle est plus si bonne qu'avant?
De quoi?
Vous dites ça s'est éclairci là de plus en plus.
Eh bien, les clients.
Ah oui, d'accord.
C'est les clients. Centrafrique, il y a 10 ans, 290 privilèges. On est tombé à passer 130, cette année 100. Des décès, les gens qui arrachent les vignes, tout ça. Il n'y a pas de pluie cette année. Alors, c'est un métier à disparaître. De toute façon, ça se voit venir depuis 10-15 ans. Hein.
Et après, vous allez où quand vous quittez Vabre?
Chez moi, à la Claparède, à la Val-Roc-Suzière, plutôt.
Parce... Et là, vous continuez à distiller?
Ah ben là-bas, je reste bois quand même. Hein. Chez moi, là-bas, parce que là-bas, il y a un grand secteur qui vient. Puis là-bas, je suis chez moi, je suis dans le village, je suis dedans.
C'est quand même dommage qu'on détruise
les alambics.
Ça peut être détruit, celui-là.
Non, mais quand vous serez plus...
Je vais rentrer dans un musée.
Oui, dans un musée.
Et j'en ai un autre, hein. J'en ai deux.
Parce que c'est des belles machines.
Ils ne veulent pas détruire l'autre. Hein.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si les gens n'amènent que du raisin ou s'ils amènent des pommes ou des prunes.
Des prunes, des pommes, du raisin, toutes sortes de fruits.
Ça. Ils ont le droit d'amener ce qu'ils veulent.
Alors, sauf la pêche, sauf la figue, les bananes, tout ça, c'est fadu. Les oranges, tout ça, c'est fadu.
Ah, parce que c'est pas des productions régionales.
C'est toxique, comme on dit.
Ah bon?
Et oui. En principe, la cerise, la prune, la poire, la pomme, et après...
Et il y a une chose que je me demande, moi, mais si les alambics arrêtent, est-ce que les gens vont pas être amenés à faire de l'alcool chez eux en cachette, comme autrefois?
Ça, je peux pas vous le dire. Ça, c'est le risque des périls.
Et même actuellement, est-ce qu'il y en a pas déjà des gens qui font un petit peu? Non?
C'est trop dangereux. Hein. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Hein. Autrefois, il y avait des appareils comme ça, mais maintenant, ça s'est détruit. Puis les jeunes, ils ne boivent pas d'alcool maintenant. Hein. Non, mais ils boivent d'alcool au bistrot. Mais après, à la maison, ils boivent pas de l'eau. Hein. Enfin, je me le pense, hein, je ne sais pas. Hein. Moi, je le viens là, ils ne boivent pas de l'eau. Hein.
C'est-à-dire que les gens qui viennent, qui apportent pour faire de l'alcool, là, cet alcool qu'ils font pour eux, ils n'ont pas le droit de le vendre.
Ah non, non, c'est vendable.
D'accord, oui.
Ils n'ont pas du tout le droit de le vendre. C'est la consommation familiale qu'on appelle.
Donc tous ces alcools qu'on a dans les cafés, ils sont faits...
Ça vient des distilleries.
C'est des distilleries
qui sont amenées pour la vente des alcools.
Cognac, tout ça, les...
C'est vrai, c'est même la blanche. Moi, si j'avais voulu, j'aurais pu le faire.
Oui.
J'avais l'accord des indirects et on me l'avait proposé, mais je n'ai pas voulu. Il faut faire la vente et avec les étiquettes et tout. Là.
Oui.
Il faut mettre l'étiquette sur la bouteille et tout va le bien et tout. Puis le trocar. Il faut payer les taxes sur ça.
Et pour vous, c'était pas intéressant de le faire ou...
Non, on n'est pas dans un coin ici, il fallait partir d'ici, il fallait aller à... Puis il fallait voter une grosse affaire,
oui.
Comme un genre de coopérative.
Oui, d'accord, oui. Les agriculteurs qui arrêtent la vigne, là, ici, est-ce qu'ils auront le droit de la reprendre ensuite?
S'ils touchent de l'argent,
non. Ah, si je... Non.
Ah, si mais... touchent la... Comment ça s'appelle? L'arrachage, là. Ils ne peuvent pas reprendre, hein.
Et autrement, leurs fils sont droits, eux.
Ah, ils les perdent, hein, c'est fini. Hein.
S'ils n'ont pas arraché.
Ah, mais s'ils ont... Tant qu'ils n'arrachent pas.
Le fils a le droit de reprendre.
Ils peuvent replanter, hein.
Il a les mêmes droits, quoi.
Il a les mêmes droits, oui, oui. Mais s'ils touchent de l'argent, hein, c'est fini, hein. C'est arrêté là, hein. Même lui, il n'a pas le droit de replanter, hein.
Et actuellement, les agriculteurs ont tendance à prendre des subventions pour arracher.
Eh bien, oui.
Ici, sur la région.
Ouais,
après, si vous voulez faire de l'arrachage, on peut toucher de l'argent.
Oui.
Ben ouais.
C'est pour ça qu'il s'arrache pas mal de vignes. Hein.
Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au coup de chef maison. Un Bordeaux pas piqué des hannetons. De temps en temps, y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse, qui lui vante son magasin à fesses. Au Corboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif.
Quand Bruno... Plus loin dans le village de Vabre-l'Abbaye, un petit café nous ouvre ses portes et les commentaires vont bon train.
Quand ils venaient les vrais ivrognes, là, quand il y en avait dans le village, ils allaient le matin ou jusqu'au soir, ils se cachaient, ils se mettaient derrière l'alambic et ils buvaient au robinet. Le soir, ils étaient ronds, hein. Vraiment, oui. Mais là, maintenant, ça n'existe plus, bon, parce qu'il y en a très peu. Il y en a très peu de ces personnes déjà âgées. Ah oui, oui, c'était folklorique. Hein. Et ils se cachaient, pauvres. Même, il y en a, nous encore, hein, on a encore nous deux ici, qui y vont et qui le soir, hein. Vous savez que vous buvez un verre d'eau de vie, hein. C'est vraiment...
Oui, c'est...
Mais à l'époque, je suis sûr qu'il y en avait une dizaine, 15 dans Vabre qui allaient boire carrément à... Puis l'esprit de risquille, de... Oui,
oui
l'esprit
oui.
de risquille. S'ils pouvaient risquiller ça, c'était quelque chose de fabuleux.
Oui, c'était leur aventure.
C'était leur aventure, voilà. Hier soir, je riais toute seule. C'était 8 heures, c'était nuit, ils portaient un bidon, une cachette, et j'ai dit, vous portez de l'eau de Lourdes. Oui, je porte de l'eau de Lourdes.
Vache qui pifle, qu'on n'a pas déconné les vieux. Il est là sous la pluie, il ne sait où aller. Il est là comme un con, il est plutôt paumé. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. C'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sang. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on prend l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier. Qui devait l'augmenter, de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
C'est une vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse. Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste. Hey, hey. Il boit pour oublier qu'il vit. Il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste navrant. Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide, il va de fils en fils, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
La vie de chien,
il doit oublier qu'il vit, il doit oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort.
Vous venez d'entendre une émission du 23 décembre 90 de Radio Vous Autres sur Radio Saint-Aff, un reportage signé Cafou. C'est la fin de cette première archive, rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux flashbacks. Salut à tous!
Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archives.